Alors, quand on préparait cette matinée, on a reçu un certain nombre de questions. La proposition vous a été faite de poser vos questions, donc elles nous sont parvenues. En les lisant, je me suis dit, waouh, c'est chouette, il y a des vraies questions qui sont là, qui sont présentes parmi vous. Et puis, on se réjouit aussi d'y répondre à deux voix, avec chacun aussi une couleur probablement théologique un peu différente. La couleur plus protestante, luthérienne, la couleur évangélique teintée d'anabaptisme en ce qui me concerne. En tout cas, je me réjouis qu'on puisse dialoguer à deux voix. On s'est dit que dans cette première partie, on allait commencer avec... on a une question qui porte sur un texte de l'Ancien Testament et puis après d'autres questions qui portent sur les textes du Nouveau Testament. Donc on va commencer tout de suite par un commentaire ou par répondre à ces questions-là. Et puis on continuera ensuite avec les questions qui touchent davantage à l'histoire de l'Église et dans le deuxième temps, davantage aux questions qui touchent à l'interprétation des thèmes généraux dans la Bible. Donc voilà, ça donne un peu, et aux questions pratiques. Donc on va un peu séparer les choses comme ça. Parfait. Alors la première question qu'on nous a posée, Adam mâle, créé en premier, point d'interrogation, ou bien Adam, mâle et femelle, pourquoi ce texte a-t-il systématiquement été mal interprété et a souvent placé la femme en second? Alors voilà, on commence direct dans le vif, dans le dur du sujet. Alors je ne sais pas si tout le monde est bien situé par rapport à la Genèse. Il y a Genèse 1 qui est un récit de la création, où il y a effectivement Adam qui est présenté comme mâle et femelle, donc l'humain en fait, Adam l'humain. Et puis, par la suite du texte, on découvre qu'il y a Adam face à Ève, bon, avec encore d'autres éléments entre, mais on va simplifier. Donc en fait, Adam passe de l'humain dans le premier récit de la création à Adam mâle dans le deuxième récit de la création. Ça va jusque-là pour redonner le grand cadre? Alors c'est une grande question, et c'est une question, je pense que tout le monde se pose, ou en tout cas tous ceux qui voudraient être honnêtes avec le texte se posent cette question. Et d'ailleurs, nos traductions de la Bible ne tranchent pas du tout au même endroit à quel moment Adam humain bascule et devient Adam mâle. C'est pas du tout évident. Si vous comparez un certain nombre de traductions, pour la Septante par exemple, Adam devient un nom propre seulement en 2.16, donc Genèse 2.16. Pour la NIV, qui est une traduction américaine, en 3.17. Pour la Tob et la Bible Second, à 4.25. Non, 2.19 pour la NIV. Je recommence. 3.17 pour la Tob, la Bible Second, et 4.25 pour la Pléiade. Donc on a des textes qui font devenir Adam homme plus ou moins tôt. Et on pourrait dire, c'est peut-être, ça serait plus simple si d'abord Adam était l'humain et qu'après il devenait homme et femme. Mais en fait, il y a Genèse 1 qui décrit Adam comme l'humain, et puis il y a la question homme-femme avec Adam et Ève, et puis en 5.1, on revient à « et il créa l'Adam, homme et mâle et femelle ». Donc en fait, on se rend compte que dans tout ce texte, il y a un jeu entre Adam-homme et Adam-humain. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce que dit le texte ? Moi, je crois qu'il laisse une souplesse d'interprétation. Et d'ailleurs, je crois que les différences d'interprétation l'illustrent bien. Il y a différentes théories qui existent sur pourquoi on devrait privilégier un tel ou un tel. Tant que mâle et femelle ne sont pas face à face, à mon avis, la question se pose de manière importante. D'ailleurs, il n'y a pas que Adam et Ève, ils ont différents noms si vous creusez le grec, mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Mais la deuxième question, c'est plutôt de dire... Quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça change au fond si l'Adam est humain ou si l'Adam est mâle et femelle? Si l'Adam est mâle uniquement? Est-ce que le mâle représente l'humanité? Ça, c'est des questions que nous, on pose en regardant le texte. Le texte, il nous dit qu'il y a une densité des termes sur l'Adam. Mais après, il y a les interprétations que nous, on apporte au texte. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que Genèse 1 et 2 sont des textes narratifs. Donc il y a des éléments qui font partie d'une histoire, d'un récit. Ce n'est pas des textes, des traités dogmatiques. Donc déjà, on fait un saut quand on en tire des conclusions dogmatiques. que je crois auxquels il faut être particulièrement, avec lesquels il faut être particulièrement prudent. Le texte, Genèse 1 et 2, n'introduit, à mon sens, pas de différence de valeur, pas de différence de rôle. Le mandat de s'occuper de la création est donné à l'homme et à la femme ensemble. N'introduit pas non plus une autorité différentielle. Tout ça, c'est des interprétations que certains ont fait, que certains continuent à faire, mais qui sont basées sur ces éléments de l'histoire, sur ces éléments narratifs. Si vous voulez lire une satire de ça, j'ai publié un article qui s'appelle « Satire de l'ordre créationnel » où on prend d'autres éléments de l'histoire pour dire « Non mais quand même, la femme, elle était le secours, donc elle venait en position de faiblesse, elle venait en position de force pour secourir son mari, etc. Elle a été créée en second parce qu'en fait, c'était la plénitude de l'humanité, etc. » Enfin voilà, vous pouvez lire, hein, mais à partir des éléments narratifs, on peut faire beaucoup de choses. Donc il faut être très prudent sur ces textes, sur ce que dit le texte concrètement, l'épaisseur qu'il laisse et ce qu'on en affirme ensuite. Et très souvent, on a plutôt l'impression qu'il y a de la théologie paulinienne dans la Genèse, alors que la base d'un texte, c'est qu'on interprète d'abord le texte pour lui-même, dans le cadre narratif qui est le sien, avant de faire des ponts et des connexions. C'est la première étape et elle est bien souvent sautée. Il est interprété en fonction de son genre narratif et en fonction de son unité littéraire, d'abord. Et je crois qu'on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi à partir de là. Ce qui est très clair dans ce texte par rapport à l'humanité, ce rapport entre le particulier et le général, c'est que Dieu crée l'humanité, Dieu crée l'Adam humain. Il y a une particularité homme-femme qui surgit. Donc il y a l'unité de l'humanité, il y a une particularité homme-femme, il y a une diversité, et il y a un appel à l'unité dans le couple. C'est ce qu'on retrouve dans le récit de la Genèse. Donc il y a cette volonté de Dieu que de l'unité, dans la diversité, on arrive à l'unité. Et c'est un projet qu'on retrouve pas seulement dans le couple, dans la Genèse, mais qu'on retrouve ensuite dans l'Église, etc. C'est, on pourrait dire, le grand projet de Dieu de réconciliation qui passe de l'unité à la diversité, à l'unité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à cette question. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Il y a beaucoup de particularités techniques dans ces textes. Mais voilà ce que j'avais envie de répondre, en tout cas, par rapport à cette première question.
Ça va, je peux rester assise. Hein. Enfin, je peux rester à ma place pour ne pas trop me rapprocher de Marie-Noël, physiquement. En fait, j'ajouterais juste que dans l'hébreu, en fait, beaucoup d'interprétations fausses ont été dérivées de la traduction. Et ça, elle l'a évoqué, mais elle n'a pas pris le temps de l'approfondir. Et je vais donner deux exemples dont elle a parlé. Cette fameuse aide, le fait que la femme est créée en second, pour être une aide, en hébreu, Ezer Kenegdo, une aide en face de lui ou une aide contre lui. On a découvert, en regardant vraiment de près l'hébreu, que aide, que nous spontanément on met dans le registre servante, et que traditionnellement, toute la tradition de l'Église a mis dans le registre, la femme doit être au service de l'homme. En fait, le mot aide dans la Bible en hébreu, la Bible hébraïque, il est quasiment à 99% utilisé pour l'aide de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est aide. Et donc le fait de donner à la femme ce terme aide, c'est au contraire une marque de noblesse. Et pas du tout le style servante, esclave, au service de l'homme. Mais c'est vraiment l'aide de Dieu. Ça, c'est la première chose. Évidemment, le terme Dieu n'y est pas. Elle n'est pas appelée aide de Dieu, mais elle est appelée aide tout court. Et pour un hébreu qui entend ça, et qui est familier de la partie hébraïque de la Bible, il sait que c'est l'aide divine. Deuxième chose, en face de lui peut être traduit par contre lui ou tout contre. C'est-à-dire, c'est intéressant comme jeu pour la relation homme-femme. Ça peut être tout contre comme ça peut être contre. Et en fait, ou en face. Mais c'est une interlocutrice, on dirait aujourd'hui. C'est pas juste quelqu'un qui va rester de son côté et qui peut se taire, mais c'est une vraie interlocutrice déjà dans ce texte. Et au fond, c'est un rédacteur très très audacieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et peut-être juste encore une chose, pourquoi est-ce qu'alors on a tellement, comment on va dire, polarisé homme-femme?
c'est d'une part à cause du récit qui vient après Genèse 3, qui est la chute, le dialogue avec le serpent et la faute d'Ève, qui a conduit les pères de l'Église, mais là on est déjà dans l'histoire, et puis je ne vais pas trop anticiper, mais juste pour dire ça, ça a conduit les pères de l'Église, qui étaient les premiers théologiens de l'Église chrétienne, dès les premiers siècles, à diaboliser celle que Genèse 3 va appeler Ève. Le nom vient seulement après. Et en fait, ils ont dit, mais elle est la porte du diable, elle est la clé du péché qui entre dans le monde. Et c'est comme ça aussi que s'est créée une tradition de lecture. Donc je dirais, ce que nous devons apprendre, et ça Marie-Noël l'a bien souligné, c'est de regarder le texte pour le texte. Et ça, heureusement, on le fait depuis le XXe siècle, vraiment le texte pour le texte. Et aussi de distinguer de la manière dont ça a été transmis. Parce que évidemment, les pères de l'Église ont influencé toute la tradition jusqu'au Moyen-Âge. Ils n'ont pas tous été aussi radicaux que celui qui a dit « tu es la porte du diable, femme, tu es la porte du diable », qui était Tertullien. Tout le monde n'a pas été comme ça, mais on trouve encore au Moyen-Âge cette idée, qui est évidemment éminemment culturelle, que la femme est aussi inférieure à l'homme de par sa raison défaillante. Elle n'a pas suffisamment d'intelligence. La preuve, elle est tombée dans les filets du serpent. C'est la preuve qu'elle est un petit peu arriérée par rapport à Adam. Adam n'aurait jamais péché, disent les pères. Ou si on avait donné un compagnon homme à Adam, certainement rien ne serait arrivé. Oh non, c'est authentique. C'est authentique. C'est une des questions que posent les pères de l'Église. Donc voilà. Et vous voyez que c'est toute une tradition de lecture qui nous influence. J'ajoute juste ça. Et on verra aussi, bon, on a vu les traductions, donc vous voyez, traduction, transmission, lecture. Alors avec ça, on va arriver jusqu'au Nouveau Testament et on fait des grands pas, hein, mais vous pourrez poser des questions tout à l'heure.
Juste encore une dernière mention que je trouve intéressante, c'est l'idée de Ève tirée de la côte d'Adam.
Ah oui.
Ça, c'est en termes de traduction, c'est quand même assez incroyable. C'est que le mot hébreu peut vouloir dire côte, mais il peut vouloir dire côté.
Voilà.
C'est pas tout à fait la même chose si on est tiré d'un accessoire non nécessaire de l'homme ou si on est tiré de son côté. Je trouve que, voilà, encore une fois, l'épaisseur du texte qui nous permet de nous approcher peut-être de perspectives plus stimulantes, en tout cas pour le sujet qui nous habite aujourd'hui. Tu voulais encore dire quelques mots par rapport à la sagesse ?
Oui, alors on a une question très intéressante. Pourquoi dans les proverbes, ce sont les pires textes sur les femmes ? Effectivement, lisez les proverbes et regardez ce qui est dit des femmes, c'est l'horreur. La femme est une gouttière qui déborde, la parole de la femme est comme une gouttière qui déborde au pied de l'homme. Enfin bon, ce sont des choses terribles et effectivement c'est très choquant. Qu'on ait des textes comme ça, parce qu'on considère quand même en tant que protestant la Bible tout entière comme parole inspirée et révélée. Et peut-être que là, apparaît le mieux la nécessité de replacer, comme Marie-Noël l'a dit, ces textes dans leur contexte historique. Et peut-être je donne simplement quelques points qui disent en quoi ils sont vraiment le reflet d'une époque. Et d'abord, ce sont des textes éducatifs. C'est-à-dire les proverbes, c'est un enseignement aux générations futures, aux jeunes générations, notamment aux jeunes hommes, à qui on apprend à se méfier des dangers de la vie et donc aussi des femmes. Alors qu'effectivement les femmes soient des dangers, je veux bien l'admettre, mais pourquoi alors particulièrement stigmatiser les femmes étrangères ? Et là vous voyez un reflet d'une époque, parce que la judéité, comme vous le savez, se transmet par la mère, par la femme. Et donc, le risque qu'un hébreu du peuple élu épouse une femme étrangère, c'est le risque de perdre la filiation de la judéité et donc l'appartenance plénière au peuple hébreu pour les enfants. D'où le risque que pose la femme étrangère, d'une part, et deuxièmement, elle est aussi symbole de l'occupation, parce que c'est quand même un peuple dont la terre a été occupée sans arrêt. Vous voyez, encore au temps du Christ, et puis partout, déjà depuis très très longtemps, et même au-delà. Donc une terre occupée par les étrangers, avec des exils, des retours, des influences. On craint donc, dans de nombreux textes bibliques, cette influence du syncrétisme, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, que les coutumes viennent affaiblir la spécificité du peuple élu, les coutumes étrangères. Et donc, la femme étrangère est un double danger, parce que c'est aussi elle qui transmet la culture. Alors, heureusement, tous les textes de l'Ancien Testament ne sont pas opposés aux étrangers, mais ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il y a aussi des textes qui précisément protègent les étrangers. Ça dépend tout à fait des époques et de la signification aussi que représente l'image de l'étranger. Alors, peut-être aussi que j'ajoute que, contrairement à ces proverbes et à ces récits, de sage, enfin, récits écrits de sagesse, qui sont souvent pleins de langage symbolique, et donc le langage symbolique est toujours, par essence, il fige. Il devrait nous ouvrir l'esprit, mais quand on reste accroché à ce qui est dit, le langage symbolique fige. Comme quand on dit femme étrangère, si vous restez juste accroché à ce que ça signifie concrètement, ça fige. Mais si vous voyez derrière le symbole que ça représente, vous avez une explication plus ouverte. Mais au contraire, moi je trouve les textes de l'Ancien Testament extrêmement audacieux sur les femmes, parce que vous avez des femmes bien différentes des stéréotypes. Vous avez aussi, notamment dans la littérature de sagesse, la femme, comment on l'appelle, la femme de valeur, la femme qui travaille, qui est du matin au soir à son ouvrage, qui est fidèle, etc. Donc on a le contre-stéréotype. Et puis aussi, tous ces textes de l'Ancien Testament, on n'a pas le temps d'en parler, qui sont des femmes prophètes, on a des femmes juges, on a des femmes qui des mères, comme la mère dans le livre des Maccabées, qu'on ne lit pas en tant que protestant, qui est la mère qui résiste au martyr, qui va jusqu'au martyr. Alors c'est à discuter, parce que c'est à double tranchant, elle encourage ses fils au martyr. Mais surtout, je suis très impressionnée par une question difficile, mais on parlera de la violence. Je crois que Marie-Noëlle veut parler de la violence. On a quand même deux femmes qui sont des meurtrières. Judith et Esther sont quand même des meurtrières, et le texte les défend. Donc on voit que le texte biblique, on doit le regarder aussi, avec nos yeux d'aujourd'hui, avec un certain, en faisant un peu contrepoids. Moi, j'ai beaucoup de mal à accepter, par idéalisation de la défense du peuple, qu'on tue. Voilà, mais ça, on y reviendra dans la question de la violence. Ceci pour dire que les rédacteurs de l'Ancien Testament sont quand même très audacieux de nous présenter beaucoup de figures de femmes qui ne sont pas des femmes domestiques. Et moi, je trouve ça étonnant pour cette époque, au contraire. Nous, aujourd'hui, ça nous choque dans l'autre sens, mais je trouve ça choquant. Presque pour l'époque, dans l'autre sens. Oh, je ne sais pas, Marie-Noëlle, si sur la sagesse, tu veux...
Non, c'est très bien. C'est très bien, je ne veux pas rajouter là-dessus, mais je trouve que c'est, encore une fois, quand on parle de ce sujet homme-femme, de prendre les textes dans leur pluralité et pas de faire des sauts monumentaux dans l'histoire du peuple de Dieu. Je crois que c'est, pour moi, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, de s'attarder sur les livres de sagesse, s'attarder sur ces exemples qui contredisent, pourtant qui sont mis en valeur, etc. Et on se rend compte qu'on progressivement grandit dans quelque chose de plus nuancé de ce que ça veut dire être une femme qui honore Dieu, être un homme qui honore Dieu. On se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et peut-être ce que je voudrais défendre ici, c'est une approche plus biblique et moins dogmatique. De revenir au texte. Et je pense que, en tout cas, c'est une sacrée richesse qu'on a là, et il n'y a rien d'idéalisé dans l'Ancien Testament. Moi, je trouve que ça me fait du bien, ça on peut souffler un coup, hein. Les familles ne sont pas parfaites, les femmes ne sont pas parfaites, les hommes ne sont pas parfaits. Oui. On est dans le concret, et Dieu rejoint. Et il rejoint, quand ça culmine en Christ, hein, on voit dans le Nouveau Testament encore une nouvelle force avec l'Esprit qui rejoint, avec Jésus qui vient en personne. Donc Dieu rejoint la multiplicité de nos vies, nos différents caractères, et il y a des personnages qui sont vraiment hauts en couleur, peut-être sur lesquels on ne s'est pas encore attardé, et c'est ce qu'essaye de faire une certaine forme de théologie qui aujourd'hui essaye de contrebalancer, de dire mais regardez les textes dans leur pluralité, dans leur richesse, et passez pas de Genèse 3 à 1 Corinthiens 11, parce que sinon vous avez juste, il vous manque quelque chose d'essentiel sur cette question homme-femme. Voilà. On va passer aux questions sur le Nouveau Testament.
Oui.
Ça va ? On s'est dit que ça serait intéressant de s'attarder sur les textes de l'apôtre Paul avant de continuer, de poursuivre sur les évangiles, dans l'ordre chronologique d'écriture aussi. Première question qui nous a été posée, « Femmes, soyez soumises à vos maris », Éphésiens 5, verset 22. Texte très patriarcal, non. Comment voir la soumission dans le couple ? La soumission est pour nous mutuelle dans le couple. Comment le justifier bibliquement ? Alors c'est un bon exemple, il me semble, d'une théologie qui doit être pensée dans un contexte, d'un texte qu'on doit regarder pour lui-même avant de plaquer toutes nos traditions dessus. Simplement de prendre le temps de l'interroger, de le passer un peu au crible de nos questions. Alors, première chose que j'aimerais dire par rapport à ce texte, c'est que Paul, dans ce contexte, dans tout le chapitre 5, il encourage à vivre une vie d'amour. C'est ça le grand thème, si on veut, du chapitre 5 d'Éphésiens, c'est de vivre une vie d'amour, d'être plein de l'esprit. Donc voilà, je cite 5.1 et puis 5.12 à 29. C'est ça qui est au centre. Et la question, c'est comment faire ça ? Comment vivre une vie d'amour ? Comment vivre une vie pleine de l'esprit ? Et il y a là, chez Paul, une volonté de rejoindre avec ce thème-là l'existant, ce qui est concrètement dans la vie des gens. Et quand il dit aux femmes de se soumettre, il ne donne pas là un enseignement chrétien, spécifiquement chrétien en tout cas, il fait l'état de quelque chose qui se fait. Non, en tout cas, si vous posiez la question à Éphèse aux femmes de cette époque, c'est logique. Les femmes, elles se soumettent à leur mari. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question. Donc, quand Paul le dit, il n'est pas en train de créer une théologie chrétienne innovatrice. Il est en train, peut-être, on peut dire comme ça, d'accepter quelque chose qui est un état des faits. En disant, bon, ok, vous continuez à vous soumettre. Et par contre, il apporte ensuite... il contrebalance quelque chose qui, là, est la force novatrice de l'Évangile. Quand il dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église », ça, c'est plutôt nouveau pour l'époque. Donc, il y a une force. Ce que Paul essaie de faire, c'est de dire « Ok, voilà, il y a un état des choses. Les femmes se soumettent à leur mari. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Et vous, les maris, aimez comme le Christ a aimé l'Église. » Et comment est-ce que le Christ a aimé l'Église ? Il s'est soumis à elle, il s'est abaissé, il a donné sa vie pour elle. Donc on voit qu'il y a là une force de rééquilibrage qui est massive et qui se trouve en l'occurrence plutôt du côté de l'homme que du côté de la femme dans cet équilibre et qui est à mon sens en tout cas bien résumé dans le début du passage qui dit « mais soumettez-vous les uns aux autres ». Et là encore, « soumettez-vous les uns aux autres », on est dans quelque chose qui est profondément ancré dans la théologie paulinienne, qu'on retrouve, je crois que c'est une quarantaine de fois, les uns les autres, il peut lire le livre d'Alfred Kuhn sur les uns les autres, où il souligne tout les uns les autres, tout ce que la communauté doit faire les uns pour les autres, c'est immense. Pardonnez-vous les uns aux autres, confessez vos péchés les uns aux autres, etc. Il y a énormément d'injonctions de la part de l'apôtre Paul pour dire « mais c'est ça qui fait l'essence de l'Église ». Donc là, Paul, ce qu'il fait, c'est simplement de l'appliquer au couple, de dire, bah, vous les femmes, soumettez-vous à vos maris, mais vous les gars, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église. Donc il y a là la force de rééquilibrage qui me semble être assez impressionnante. Et pareil, on le voit dans le binôme qui suit concernant les esclaves et les maîtres, parce qu'il n'y a pas seulement homme-femme. Esclaves, j'ai plus le texte littéralement en tête, mais il y a cette idée que les esclaves continuent à soumettre à leurs maîtres. Il y a une acceptation du temps, on va dire, de quelque chose qui est imparfait dans le temps. Et vous, maître, et là, il y a la force novatrice de l'Évangile. Et puis, pareil, les enfants, obéissent à vos parents. Ok, bon, enfin, qui est-ce qui aurait questionné ça à l'époque ? Mais, et vous, pareil, il faudrait que je
respecte. N'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur.
Voilà. Donc là, force de rééquilibrage. Donc ça, pour moi, ça donne un regard un petit peu nouveau sur la force d'Éphésiens 5. Certes, on peut s'attarder sur « Femmes, soumettez-vous ». Et moi, je rejoins tout à fait cette personne, en tout cas. Dans mon couple, ça fonctionne parce qu'on est soumis l'un à l'autre. Mais vraiment. Et ça prend différentes formes. On n'est pas en train de décider qui a l'autorité dans notre couple. On est en train de voir qu'est-ce qui serait le mieux pour nous, qu'est-ce qui serait le mieux pour chacun de nous, comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce que ça peut être fertile dans nos vies. Et ça, ce n'est pas une question de qui décide. La question, c'est comment est-ce qu'on avance. Et c'est une question qui est basée sur la soumission mutuelle, où parfois mon mari a accepté de sacrifier des choses pour lui par amour pour moi, et inversement, j'ai accepté de sacrifier des choses pour moi par amour pour lui. Et je crois que c'est ça ce qui crée une dynamique vertueuse depuis 17 ans. En tout cas, je ne dis pas que c'est le modèle pour tout le monde, mais je crois que la force de l'évangile et d'Éphésiens 5, elle est précisément là.
Oui, il faut vraiment souligner la portée révolutionnaire de ce texte qui nous paraît aujourd'hui problématique, alors qu'en fait, il était révolutionnaire. C'est bien ce que Marie-Noël souligne, et c'est ça qu'il faut bien voir, cette soumission mutuelle. Mais je reprends un peu plus largement, parce que la question est posée dans plusieurs questions. Est-ce que Paul est misogyne? Est-ce qu'on le supporte? Est-ce qu'il est encore... Est-ce que vraiment Paul a quelque chose à nous dire? Et pourquoi donner tellement d'importance à Paul avec ses idées? Voilà. Et là, je voudrais soulever quelques points et aussi peut-être dire qu'on a aussi une certaine lecture où on ne voit pas toujours les choses parce qu'on a l'habitude des textes et on ne voit plus nécessairement les détails. La première chose qui me paraît très très importante, c'est que historiquement, on voit dans les textes de Paul qu'il attend le retour du Seigneur imminemment. Et que du coup, il ne s'est pas du tout attardé à se dire est-ce que je vais changer la société? Est-ce qu'il faut modifier les relations maître-esclave? Ça, c'est un très bon exemple. Hein. Il écrit à Philémon de s'occuper de son esclave. De s'occuper de son esclave Onésime. Il ne lui dit pas de le libérer. Donc, c'est la même situation. De même, parents-enfants, il faut rester dans ce qu'on est. Il faut d'ailleurs plus prendre femme parce que le temps s'est approché où le Christ va revenir. Donc il faut bien se dire ça. Paul n'a pas écrit dans l'idée de faire une somme théologique pour l'éternité. Et s'il savait qu'on lit ses lettres, il serait certainement un petit peu effrayé en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit à l'époque ?» Oui, non mais c'est sûr. Deuxième chose... nous avons accès avec les lettres, plus qu'avec les évangiles, vraiment au direct de ce qui se vivait à l'époque. Parce que les épîtres sont écrites historiquement avant les évangiles, c'est-à-dire dès les années 50, 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, donc très proche des événements, et on a un témoin direct en quelque sorte. L'apôtre Paul n'est certes pas un témoin oculaire de Jésus, mais c'est un témoin de ce qui se vivait à l'époque. Et donc, on est en quelque sorte, on a des, c'est comme une photo en direct ou un audio en direct des communautés. Ensuite, ce sont des lettres de circonstance, c'est-à-dire qu'il écrit pour répondre à des problèmes qu'on lui a posés. Et s'il dit aux femmes de se taire, ou de se voiler, ou de ne pas enseigner les hommes, c'est que depuis Jésus-Christ, elles avaient le droit de le faire. Et que la transformation que le christianisme avait apportée dans les esprits était si importante qu'elle se sentait en liberté de le faire. Et donc le pauvre apôtre, il a des lettres des communautés qui lui disent « mais ça va plus du tout, chez nous les femmes parlent à tort et à travers », ou bien elles se mettent à prophétiser, on ne sait plus comment faire quand on se réunit. Donc il y avait un peu des difficultés dans ces communautés, et il répond « et ça montre bien qu'il y avait une forte liberté ». Paradoxalement, nous on imagine que c'est super conservateur et très fermé, mais au contraire, ça exprime la liberté qu'il y avait et qui fait peur. Parce que, effectivement, alors on le voit aussi dans ce qu'il écrit sur la Sainte Cène dans 1 Corinthiens 10, puisqu'il dit que les gens viennent, où il y a la question des classes sociales, puisqu'il dit au fond les gens rompent le pain de manière indigne parce qu'ils n'attendent pas les autres. C'est-à-dire, ils viennent avant les esclaves et les serviteurs et les servantes, ils se remplissent la panse, et les autres ne viennent que quand ils ont fini leur travail, et il n'y a plus rien. Et ce n'est pas une communion de fraction du pain.
Ce n'est pas honorer le corps.
Oui, oui, voilà.
C'est le corps du Christ.
Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y avait là des problèmes, tant entre hommes et femmes que les classes sociales. C'était tellement impensable de partager son pain avec les esclaves que voilà, on a des problèmes d'autorité. Et puis la troisième chose que je voulais dire, ou la quatrième, je ne sais plus, c'est qu'il y a des éléments, que ça n'enlève pas l'autorité qu'ont ces lettres de Paul pour nous. Et que ça reste néanmoins très très important pour notre foi. Et je dis ça comme théologienne, on va dire, qui vient de l'exégèse historico-critique, j'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire où on étudie les textes historiquement, et on peut néanmoins développer une démarche de foi et qui a toute son autorité, parce que précisément ce qu'on peut découvrir chez Paul, c'est le côté révolutionnaire, c'est le côté qui transforme les mentalités. Il n'est pas dans les mentalités de l'époque, et il est au contraire très ouvert. Alors, une dernière chose, on a découvert, donc on avait fait cette Bible des femmes qui s'appelle une Bible des femmes avec un petit B, hein. On n'a donc pas voulu faire une Bible avec un grand B, ni d'ailleurs contester, on a voulu au contraire valoriser les textes bibliques. On a voulu montrer le côté qui reste toujours porteur de l'évangile, pour de la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui en tant que femmes. Donc ce n'est pas une contestation de la Bible, hein, contrairement à ce que certains ont pu dire ou penser. Au contraire, on a voulu valoriser les textes bibliques. Mais on est en train en ce moment de travailler une Bible des hommes, c'est-à-dire de réfléchir à la masculinité dans les textes bibliques. Et on a fait une découverte, moi-même, qui travaille les textes depuis 30 ans, 40 ans, 35 ans. J'ai fait une découverte grâce à un chapitre qui est en train de s'écrire dans cette Bible des hommes, l'Épître aux Galates. Simon Butica et Corinna Combé-Galant, qui sont deux exégètes reconnues, nous ont fait un magnifique chapitre sur Paul en tant que mère. La maman des croyants. Et j'ai découvert que dans Galates 4, si vous lisez Galates 4, vous avez toute une thématique de Paul qui accouche, qui dit aux Galates, mais j'accouche à nouveau de vous, parce qu'il s'énerve contre eux, mais en même temps il s'énerve avec tendresse et avec amour. Il a un ton très très, on voit dans les termes grecs le ton de l'affection qu'il a. Il les appelle ses enfants bien-aimés, il leur parle avec amour, et il dit, mais je accouche de nouveau dans la douleur de vous, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et donc on a toute une image maternelle de l'apôtre qui utilise aussi dans l'épître à Philémon, où il parle de l'esclave Onésime. Il s'adresse à Philémon et à Onésime comme une maman. Et moi je me suis dit, mais je n'ai jamais lu ce texte comme ça. Donc en fait, vous voyez, c'est aussi le regard que nous avons, parce que d'office, c'est l'apôtre Paul. Donc on se dit, bon, on est déjà un petit peu pré-formaté pour lire Paul, mais de le lire vraiment dans le texte, comme Marie-Noël l'a souligné, c'est extraordinaire. Voilà, on pourra donner encore d'autres exemples tout à l'heure.
On a aussi un article qui s'appelle « Quand Paul accouche », qui est sur le blog Servir Ensemble, si jamais ça vous intéresse.
Voilà, donc Marie-Noël a déjà découvert ça.
C'est Joël Razanajori qui a écrit l'article. Mais c'est vrai que c'est, on se rend compte que quand on questionne nos présupposés, il y a beaucoup plus de diversité que par rapport à cette idée homme-femme. On s'est figé sur quelques textes, alors qu'il y a beaucoup plus de finesse, il y a une belle diversité, y compris dans les textes de l'apôtre Paul. Donc voilà, une invitation à les découvrir toujours davantage. Voilà, on a eu, je ne sais pas combien de temps, 5 minutes. Ouais, on a des questions qui touchent aux textes sensibles, que les femmes se taisent, et puis les versets d'un Timothée 2:12. Je ne sais pas si c'est maintenant le mieux. C'est en fait...
bien, s'il faut... On peut faire la pause maintenant et prendre ça après.
Ouais.
On supprimera pas.
Non, mais
on va faire la pause quand même.
Je vais dire quelques mots par rapport à ces deux textes. Peut-être de manière générale, C'est toujours intéressant quand on lit des commentaires de ces textes. Donc si vous ne les situez pas, c'est dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 14 et dans 1 Timothée 2, 12, des versets qui sont souvent brandis comme des épées sur ce sujet. C'est des textes, alors souvent les gens disent, c'est des textes très compliqués, mais c'est sûr, c'est ça que ça veut dire. Alors déjà dans ces trois textes, juste pour faire une généralité, il y a 50 difficultés d'exégèse. Donc 50 difficultés où on se dit, mais est-ce que vraiment ça veut dire ça ou pas? Donc 50 sujets où on se dit, on ne sait pas vraiment ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Donc sur cette base, moi je vous invite et je nous invite à avancer avec prudence sur ces textes-là. Et en plus, c'est des textes qui sont dans de la négation, donc pas dans de l'affirmation de ce qui devrait être, mais dans de la négation de ce qui ne doit plus être. Donc ça rajoute aussi encore une difficulté. Et troisième chose, dans des contextes d'églises en grande souffrance, d'églises qui sont vraiment en difficulté. Et on ne dit pas la même chose à quelqu'un qui est en grande difficulté que si on devait établir une règle pour tous les temps. Donc ça, c'est les trois éléments qui me semblent être extrêmement importants sur lesquels on peut baser. Le ton de l'apôtre Paul est extrêmement dur dans ces passages. Que les femmes se taisent. Alors c'est assez curieux parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14 que les femmes se taisent, alors que dans 1 Corinthiens 11, elles prophétisent et il ne semble pas avoir de problème avec ça. Donc la question, mais est-ce qu'ils se contredisent? Est-ce qu'elles ont le droit de parler et l'apôtre Paul se contredit? Ou bien est-ce qu'elles n'ont pas le droit et l'apôtre Paul se contredit avant? Ou bien, enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est dans tout un contexte d'une épître qui est compliqué à interpréter. Il y a trois groupes qui doivent se taire. C'est le même mot qui est utilisé, sigao. Le premier groupe, c'est ceux qui parlent en langue sans interprétation. Le deuxième groupe, c'est ceux qui prophétisent alors que l'autre n'a pas fini sa prophétie. Et le troisième groupe, c'est les femmes. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose d'extrêmement contextuel, de circonstancié dans ce qui se passe dans cette épître. Je dirais que c'est un texte qui demande à être regardé de manière plus particulière. Je vais pas aller plus en détail, mais voilà, ça donne un peu quelques repères pour 1 Corinthiens 14.
Je peux dire une phrase. Justement, ça montre bien le contexte avec ceux qui prophétisent ou bien ceux qui parlent sans qu'il y ait de l'interprétation. La peur de Paul ici, peut-être juste pour préciser le point, la peur de Paul, c'est qu'on parte dans tous les sens et qu'on oublie la révélation de Jésus-Christ et qu'on perde un peu la route parce qu'il y a trop de personnes qui prennent autorité dans la parole. Et on ne sait plus, finalement, comme on dirait aujourd'hui, à quel saint se vouer. Et je pense que c'est ça qui est derrière. Mais c'est vrai qu'on est dérouté, et je pense que c'est le reflet, effectivement, de cette déroute de l'époque. Voilà.
Et encore quelques mots par rapport à 1 Timothée 2, 12. C'est aussi, pareil, contexte d'enseignement hérétique. Il y a des femmes qui répandent des hérésies, donc des faux enseignements. Donc on peut aussi se poser la question... Est-ce que, parce qu'il s'adresse aux femmes, est-ce qu'il ne se serait pas adressé aux hommes de la même manière? C'est difficile à dire, en fait, dans l'interprétation de ce texte. Les femmes doivent arrêter d'autentein. Autentein, c'est de dominer, donc c'est un exercice d'une autorité. C'est pas juste la personne à qui on confie une responsabilité, c'est une domination. Donc les femmes doivent arrêter d'autentein, mais dans l'Église de Jésus-Christ, tout le monde doit arrêter de dominer. C'est pas spécifiquement féminin ce qui se passe là, et encore en plus on est dans un contexte où les femmes ne sont pas instruites et on leur dit mais allez, elles doivent faire une chose, elles doivent arrêter de dominer, et deuxièmement qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent s'instruire. Donc c'est dans un contexte où la prise de parole pour pouvoir dire quelque chose, on est dans un contexte où il n'y a pas de Bible écrite, où il n'y a que cette tradition là orale, donc il y a une grosse responsabilité, une autorité qu'on retrouve à mon sens plus de la même manière aujourd'hui, dans la prise de parole de l'Église. Et les femmes doivent arrêter de dominer avec des faux enseignements et elles doivent s'instruire paisiblement. Il y a là aussi un enjeu qui est totalement lié à un contexte. Et c'est ce qu'on dirait dans toutes nos églises, si quelqu'un n'a aucune formation et dit n'importe quoi à partir de la Bible, on lui dira, écoute, arrête de dominer, instruis-toi, va étudier un peu le texte parce que tu dis n'importe quoi. Donc on est encore, à mon sens, dans cette situation Voilà, il y a une citation de la Genèse qui fait que beaucoup l'ont amplifiée de manière générale, qui à mon sens est liée aussi au récit particulier de la Genèse, où Ève a pris une décision alors qu'elle n'était pas instruite, et où c'est ce qui se reproduit aussi dans l'Église de laquelle parle un Timothée.
Peut-être juste aussi que le contexte historique de l'époque, c'était aussi la lutte contre les hérésies, parce qu'il n'y avait pas que à l'intérieur des communautés chrétiennes, mais autour de des communautés chrétiennes, il y avait d'autres courants de pensée. D'autres courants de pensée et d'autres philosophies qui circulaient, et donc c'était très très difficile pour ces petites communautés chrétiennes qui étaient de toute façon considérées comme des sectes. De trouver leur chemin et de garder une ligne droite. Et de plus en plus, avec la perte de la mort des apôtres, on commençait à avoir cette difficulté. Comment garder la doctrine chrétienne, enfin la doctrine, disons l'expression de la foi chrétienne, fidèle?
Et je pense que c'est des bons textes sur lesquels on peut s'attarder, qui sont aussi très très liés au contexte dans lesquels ils sont énoncés. Voilà. On va peut-être juste finir avec une clé de compréhension du texte biblique qui est aussi fondamentale, c'est que les textes pas clairs doivent être interprétés à la lumière des textes clairs. Et des textes clairs, on en a beaucoup. Mais on rechigne souvent un petit peu. Par exemple, le don de l'Esprit Saint à la communauté des croyants qui dispense des dons et à tous et à toutes. Ça, c'est un texte on ne peut plus limpide, mais qui, à mon sens, devrait donner une clé d'interprétation pour ces textes plus complexes-là. Et puis, évidemment, l'événement de Jésus-Christ. Je parle là, bien sûr, de sa mort, de sa résurrection, mais aussi de tout son enseignement, de toute son attitude. Et puis de différents textes des évangiles, on reprendra peut-être avec cette partie-là après la pause.
Tout à fait.